Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout, qui vous informe en ce dimanche. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et on va commencer par un jeu qui fait polémique.
À Toulouse, un escape game, vous savez, ce jeu grandeur nature qui consiste en un temps imparti à résoudre différentes énigmes. Et bien cet escape game consiste à retrouver Emmanuel Macron et surtout de décider, in fine, si le président doit être libéré, poursuivi en justice ou carrément tué. Certains y verront de la provocation, un humour très singulier. D'autres, un passe-temps ludique à prendre au dernier degré. En tout cas, ce jeu, imaginé par une ancienne gilet jaune, Pierre Collat, fait beaucoup parler.
Nous sommes dans un décor de squat anarchiste. Différentes énigmes doivent être résolues pendant une heure. Puis, dans la dernière salle de l'escape game, se trouve un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. Là, on peut soit le libérer, soit le juger, soit abréger ses souffrances. Alric vient de finir une partie avec ses amis.
Je suis pas pour tuer des présidents, mais j'ai quand même passé un bon moment. On s'est pas trop décidé. Il y avait des gens qui voulaient le soigner et le ramener à l'Élysée, et d'autres qui voulaient le tuer, quoi. Donc, on n'a pas eu de consensus.
Tout le jeu se moque du monde politique avec beaucoup de second degré. Par exemple, dans une salle, on trouve le coffre d'Alexandre Benalla avec dedans...
On a le petit homard de François Drugis.
Pour Camille, la gérante, pouvoir tuer le président à la fin du jeu est une décision assumée.
Le fait de proposer de le tuer, c'est plus un exutoire. Il y a aussi un côté un peu de test sociologique. Je le proposais pas au début. Depuis que je le propose, je t'assure que je laisse vraiment les trois choix et que j'essaie pas d'influencer les joueurs. Ils le choisissent d'eux-mêmes. Et quand on peut rigoler avec, on va le faire.
Et vous avez jusqu'en décembre. Ensuite, le scénario changera complètement. Il aura pour thème l'absurdité de l'administration.
Le reportage de Pierre Collat à Toulouse pour RTL. En Indre-et-Loire, hier, 5 personnes sont mortes lors de la collision d'un ULM et d'un avion de tourisme. Pour l'heure, on ne connaît pas l'identité des victimes ni les raisons de ce télescopage qui a eu lieu sur la commune de Loches. 8 jours après les violentes intempéries dans les Alpes-Maritimes, les secours sont toujours à la recherche de 9 personnes portées disparues, 13 autres supposées disparues. Pour l'heure, 6 corps ont été retrouvés et à partir d'aujourd'hui, de nombreux experts entament l'évaluation de plus de 2000 bâtiments impactés, voire complètement détruits par les pluies diluviennes.
En France, Agnès, la propagation du coronavirus s'accélère encore.
Un nouveau record du nombre de contaminations en 24 heures. Cette fois, près de 27 000 cas ont été recensés. Les malades admis en réanimation sont de plus en plus nombreux. 4 villes supplémentaires, vous le savez, ont été placées en alerte maximale. Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille. Toutes devront respecter la fermeture des bars, ce qui veut dire concrètement moins de commandes pour les grossistes en boissons. Vous avez pu le constater dans une entreprise des Hauts-de-France, Antoine Decarne.
Dans les 3600 m² de son entrepôt à Saint-Omer, Laurent Péqueur, le directeur général de Sody Boissons, trie sa prochaine livraison.
Sur cette tournée-ci, d'habitude, pour un client, peut-être qu'il devrait y avoir 30 caisses. Et là, vous voyez, sur cette palette, on n'a que 5 caisses. Et c'est la problématique, en fait. C'est qu'on a des petites commandes. Le gros problème, c'est la rentabilité de nos tournées.
Car pour lui, les frais fixes ne changent pas, mais il n'a pas le droit aux aides de l'État, car il ne perd pas assez d'argent.
Quand on est à moins 80%, je veux dire, on est aidé. Et quand on perd 30 ou 40%, c'est la grosse difficulté. On demande aujourd'hui une suppression des charges sociales sur toutes les entreprises liées à cette baisse d'activité.
Et ces pertes sont déjà visibles sur un stock de 5 millions. 1 million de boissons, 2 millions vont partir à la poubelle. Pour Laurent, c'est déjà une année blanche.
Nous étions partis pour faire plus 15%. Et logiquement, l'année, on va finir à moins 25%. Ce qu'il faut éviter, c'est forcément toute la casse qu'on va avoir au niveau des cafés-restaurants. Toute la chaîne va être touchée et ça va être vraiment très très compliqué.
Alors, il espère des mesures renforcées partout, notamment dans les soirées clandestines, pour que la fermeture des bars ne soit pas inutile.
Le reportage d'Antoine Decarne pour RTL. Les chiffres s'envolent également à l'étranger concernant l'épidémie. L'Inde franchit le seuil des 7 millions de cas. Le Brésil dénombre désormais plus de 150 000 morts. C'est le deuxième pays le plus endeuillé après les États-Unis.
Les États-Unis, justement, Agnès. Donald Trump est remonté sur le ring cette nuit.
Une semaine après avoir été testé positif au coronavirus, le président américain, candidat à sa propre succession, a pris la parole depuis la Maison-Blanche. Il relance sa campagne à 3 semaines de l'élection. Son médecin affirme qu'il n'est plus contagieux et c'est exactement le message qu'il a voulu faire passer lors de cette allocution, Lionel Gendron.
Oui, l'important c'était d'apparaître sans masque et en bonne santé. Sur ce point, Donald Trump n'a pas montré de signe de faiblesse. Il semblait en forme, même s'il a parlé moins de 20 minutes, ce qui est peu pour lui. Au balcon, il dominait un public en très grande partie masqué, mais plutôt serré. L'image rappelait celle des soirées électorales quand le vainqueur vient remercier ses supporters. Et le message est clair, son hospitalisation est une parenthèse dont il sort renforcé. Après ce tour de chauffe, Donald Trump tiendra un meeting en Floride dès demain, puis sera en Pennsylvanie et dans l'Iowa. Sur le fond, rien de nouveau. Hier, l'économie va bien, la communauté noire lui doit beaucoup et le coronavirus va disparaître. L'essentiel était ailleurs. Il n'abandonnera pas le bureau ovale sans se battre jusqu'au bout.
Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. La région du Nagorno-Karabakh est toujours sous les bombardements, en dépit d'un cessez-le-feu qui devait normalement entrer en vigueur hier matin, on en parlait sur RTL. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir violé les accords passés à Moscou vendredi soir.
8h05, vous restez bien là, la suite du journal dans un instant avec du football et une soirée de retrouvailles entre la France et le Portugal. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis la finale de l'Euro 2016 et évidemment Agnès Bonfillon va vous rappeler qu'on avait perdu. À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là à 8h08, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Agnès qui va se régaler ce dimanche parce qu'il y a un très joli programme pour les fans de sport.
Ne m'en parlez pas, du tennis tout d'abord avec cet après-midi la finale Djokovic-Nadal à Roland-Garros. Match à suivre à partir de 15h sur RTL grâce au point régulier de nos journalistes toutes les demi-heures. Hier chez les dames, c'est la jeune Iga Świątek qui s'est imposée. La polonaise de 19 ans remporte son premier titre de Grand Chelem en battant l'américaine Sofia Kenin 6-4, 6-1. Et puis en foot, ce soir, pour la première fois, l'équipe de France retrouve le Portugal depuis 2016. L'occasion, peut-être pour les Bleus, d'effacer leur défaite en finale de l'Euro face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ce soir, c'est en Ligue des Nations que les deux équipes s'affrontent. Et les hommes de Didier Deschamps le savent, il va encore falloir faire avec CR7, Nicolas Georgerot.
Oui, Paul Pogba résume le joueur.
C'est une légende du foot.
Époustouflant encore à 35 ans et demi, la moitié de sa vie passée en équipe du Portugal. Cristiano Ronaldo n'est pas prêt de raccrocher. Le gardien Hugo Lloris sait qu'il peut avoir du travail ce soir.
C'est un joueur ultra complet. Il est capable de tout faire. C'est un joueur hors du commun. Et forcément, lorsqu'il est présent dans l'équipe adverse, ça reste une menace. Et on va faire en sorte de faire le maximum pour gagner ce match.
Il y a un mois, contre la Suède, le quintuple Ballon d'Or a inscrit un doublé pour atteindre les 101 buts en sélection. Il est à 8 longueurs désormais du record mondial. Le Portugal à Cristiano Ronaldo, la France Kylian Mbappé, le sélectionneur Didier Deschamps.
Cristiano a sans cesse cette force de pouvoir être décisif à tout moment. C'est une force aussi de Kylian, bien évidemment, en étant beaucoup plus jeune, ce qui les classe les deux dans la catégorie de top joueurs au niveau mondial.
Cristiano Ronaldo a croisé la France à 4 reprises sans jamais marquer, une anomalie qu'il veut réparer. Il y a 4 ans, en finale de l'Euro, blessé, il n'était resté que 25 minutes sur la pelouse.
Oui, Peggy Brochin, CR7, c'est Cristiano Ronaldo. Je dis
merci
ça, je
dis beaucoup,
rien.
Agnès, c'est très gentil.
Nicolas Georgerot, que nous retrouverons tout à l'heure, en tout cas au commentaire de ce match, en compagnie de Philippe Sanfourche et Christian Olivier. France-Portugal, c'est à suivre sur M6 et dès 20h sur RTL.
Et on en parle avec Robert Pires, le consultant M6 RTL. Bien sûr, rendez-vous tout à l'heure à 9h10.
Pouvoir aller au stade facilement fait-il partie des critères qui rentrent en compte pour passer la meilleure des retraites possibles? Le Figaro a passé au crible de nombreuses villes avant d'établir un palmarès qui bouscule pas mal d'idées reçues, Aurélia Valarié.
Et oui, contrairement à ce qu'on pense, la Côte d'Azur n'est pas en haut du classement. Pour ça, il faut se rendre dans le sud-ouest, autour du bassin d'Arcachon. En effet, sur les 50 villes scrutées à la loupe pour dénicher la perle rare où il fait bon vivre à la retraite, c'est la ville d'Andernos-les-Bains qui remporte la Palme d'Or cette année. Dans le top 5, on retrouve aussi Vannes, Narbonne ou encore Chalon, situé au sud de Nantes, alors que Nice, par exemple, n'arrive qu'à la 17e place. Pour arriver à ce résultat, plusieurs critères ont été pris en compte. Il y a par exemple l'ensoleillement, la distance du CHU le plus proche ou encore le nombre de pharmacies. Et sur ce point, c'est la ville de Marseille qui détient le record avec plus de 410 pharmacies. Autre donnée prise en compte, le taux de cambriolage. La mauvaise élève ici, c'est Aix-en-Provence avec 40 cambriolages pour 1000 habitants, alors qu'à Cherbourg, par exemple, on n'en compte que 7. Et enfin, dernier critère et pas des moindres, le nombre de clubs du 3e âge. Et là, c'est Le Mans qui arrive en tête avec 35 clubs au total pour seulement 143 000 habitants.
Merci beaucoup Aurélia Valarié. Le Mans, il y a aussi pas mal de sports cet après-midi, Stéphane.
Oui, absolument. Le Mans, c'est la moto.
Exactement, avec Fabio Quartararo.
Bien.
Eh oui, pole position cet après-midi.
Oh là là, parce que vous êtes forte.
Quel talent.
Respect total.
Voilà.
Agnès Bonfillon revient tout à l'heure avec son talent à 9h du matin. Le foot sur le terrain, Agnès en parlait. Il y a le foot en coulisses aussi. Ça n'a pas échappé hier soir à Christian Olivier et à toute son équipe.